Chapitre 20. Le samedi matin, Dale jouait au baseball lorsque Chuck Sperling et Digger Taylor arrivèrent juchés sur leur bicyclette de luxe.
Hé! Hey, ton copain Dwayne est mort! Lui cria Chuck.
Dale le regarda sans comprendre.
T'es cinglé? Finit-il par dire.
Sa bouche était soudain devenue sèche. Puis il pensa qu'il y avait un malentendu.
Tu veux parler de l'oncle de Dwayne?
Non, je te parle pas de son oncle. Ça, c'était lundi dernier, non? Je te parle de Dwayne McBride. Il est aussi crevé qu'un chien écrasé.
Dale ouvrit la bouche et ne trouva rien à dire.
Foutu menteur, balbutia-t-il.
Non, c'est vrai,
intervint Digger Taylor, le fils de l'entrepreneur des pompes funèbres. Dale regarda Sperling comme pour le supplier d'arrêter la plaisanterie.
C'est pas une blague, insista Chuck en lançant une balle en l'air et en la rattrapant. Ils ont appelé le père de Digger à la ferme ce matin. Le gros Dwayne est tombé dans une moissonneuse-batteuse. Une moissonneuse-batteuse, t'imagines? Il leur a fallu plus d'une heure pour sortir les morceaux coincés dans la machine. Ton père dit qu'il n'est pas question d'exposer le corps, hein, Digger?
Taylor ne répondit pas. Il regardait Dale d'un œil pâle et inexpressif.
Tu vas retirer immédiatement ce que tu viens de dire.
Dale avait lâché batte et gants et s'approchait de Sperling qui continuait nonchalamment à jouer avec sa balle. Chuck s'arrêta et fronça le sourcil.
Qu'est-ce qui te prend, Stewart? J'ai pensé que t'aurais envie de savoir.
Retire ce que tu viens de dire, répéta Dale.
Mais il n'attendit pas la réponse et fonça sur Chuck, chargeant la tête la première. Sperling leva les bras, les abattit sur le cou de Dale, qui le frappa au ventre de toutes ses forces, 3 ou 4 fois. Le garçon s'aplatit contre le grillage et Dale commença à lui marteler le visage. Le second coup fit jaillir le sang de son nez, le troisième lui cassa des dents. Dale avait le poing en sang, mais il ne sentait pas la douleur. Sperling se roula en boule, pleurnichant et se protégeant le visage des avant-bras, les mains sur le crâne. Dale lui donna 2 ou 3 coups de pied. Quand Sperling baissa les bras, Dale le saisit à la gorge, le releva contre la clôture, l'étouffant de la main gauche tandis que de l'autre, il lui cognait le front, l'oreille, la bouche. Il y eut des cris très loin, des mains tirèrent Dale en arrière. Sperling prit son élan et gifla Dale, qui lui envoya un coup de poing dans l'œil gauche. Dale sentit soudain une violente douleur dans les reins. Une main lui attrapa le menton, le poussa en arrière. Digger Taylor s'était interposé entre les deux combattants. Dale chargea et Digger le frappa une fois, très fort, au-dessus du plexus solaire. Dale s'abattit dans la poussière, en proie à des hauts le cœur, roula contre le grillage, essaya de se relever, mais il n'arrivait pas à reprendre son souffle. Lawrence poussa un cri de guerre en déboulant, fit un bond de 2 mètres et s'accrocha au dos de Digger qui, d'une bourrade, l'envoya rouler dans la clôture. Lawrence rebondit et atterrit sur ses pieds, comme si le grillage était un tremplin vertical. Tête baissée, il se jeta sur Taylor qui recula en essayant de lui maintenir la tête. Tous deux butèrent dans Chuck Sperling, toujours gémissant, et ils tombèrent en tas. Barry Fussner s'approcha, fit le tour du groupe et lança un coup de pied maladroit qui passa bien au-dessus de la tête de Lawrence.
Hé !
Cria Kevin, s'en mêlant à son tour et repoussant Fussner d'une bourrade. Barry essaya de lui donner un coup de pied, mais Kevin lui attrapa la jambe et le fit tomber en arrière dans la poussière. L'autre Fussner cria quelque chose et s'approcha prudemment, puis recula quand Kevin se retourna pour lui faire front. Bob McCone et Jerry Deisinger se contentaient de crier des encouragements et Tom Castadenti resta sur le terrain de sport. Digger attrapa Lawrence par son t-shirt, le jeta de l'autre côté du banc, ramassa Sperling et essaya d'atteindre à reculons leur bicyclette. Lawrence se releva, poing serré, et Dale, toujours incapable de respirer mais bien décidé à ne pas se laisser arrêter par ce détail, quitta en chancelant l'appui du grillage pour faire 2 pas en direction de Taylor et Sperling. Cette fois, il allait leur faire rentrer leurs mensonges dans la gorge. De lourdes mains s'abattirent par derrière sur ses épaules. Il tenta de se dégager, jura, rua pour se débarrasser de ce nouvel adversaire qui l'empêchait d'atteindre Sperling.
« Dale ! Arrête ! Dale !»
Son père le maintenait par la taille. Il croisa son regard et comprit. Ses genoux fléchirent et seul le bras paternel l'empêcha de tomber. Digger Taylor et Chuck Sperling repartirent sur leur bicyclette. Chuck pleurait et zigzaguait, essayant de pédaler tout en se tenant le ventre.
Lawrence leur lança des pierres jusqu'à ce que son père lui ordonne de cesser. Dale ne se rappelait pas comment il était rentré chez lui, peut-être son père l'avait-il soutenu, mais il se souvenait qu'il n'avait pas pleuré. Pas encore. Mike s'habillait pour servir la messe quand il apprit la mort de Dwayne.
« Hé, t'as entendu parler du fils de fermier qui est mort ce matin ?»
Mike se figea. Intuitivement, il savait déjà de quel fils de fermier il s'agissait. Mais il demanda tout de même « Dwayne McBride ?»«
Oui, il paraît qu'il est tombé dans une machine agricole très tôt ce matin. Pa et pompiers, il a été appelé là-bas. Ils ont rien pu faire, le gars était déjà mort. Mais il leur a fallu un temps fou pour le sortir de la machine. »
Mike se laissa tomber sur le banc le plus proche. Sa vue se brouilla. Alors il mit sa tête entre ses genoux.
« T'es sûr que c'est Dwayne McBride ?»«
Ouais, mon père connaît son père, il l'a vu à l'arbre noir hier soir. Il dit que le gars devait conduire la moissonneuse-batteuse toute montée pour la récolte. Il devait être fou, récolter le maïs en juin. Et il a dû tomber dans la partie coupante, tu sais, là où il y a les lames et tout ça. Mon père a rien voulu me dire, mais il a raconté à ma mère qu'ils n'ont pas pu le sortir en entier et que quand ils ont tiré sur le bras...
« Ça suffit, Rusty !»
aboya le père Cavano du seuil de la porte.
« File immédiatement préparer le vin et l'eau !»
Dès que Rusty fut sorti, le père s'approcha de Mike et lui posa doucement la main sur l'épaule. Le garçon tremblait comme une feuille. Il se croisa les bras et serra les mains. En vain, il ne pouvait pas arrêter de grelotter.
« Tu le connaissais, Michael ?»
Il fit un signe de tête affirmatif.
« Un ami proche ?»
Il haussa les épaules et acquiesça. Il tremblait encore plus fort.
« Il était catholique ?»«
Qu'est-ce que ça peut bien foutre ?»«
Non, je ne crois pas. Il n'est jamais venu ici. D'ailleurs, je crois que lui et son père n'appartenaient à aucune église. »«
Ça ne fait rien. J'irai le voir quand même après la messe. »«
Vous ne pouvez pas aller voir M. McBride, mon père ?»
dit Rusty en rapportant les burettes.
« Les flics l'ont emmené à Oak Hill. Ils pensent que c'est peut-être lui qui a tué son fils. »«
Tais-toi, Rusty, et attends-nous dehors. »
Rusty ouvrit la bouche, regarda le père avec des grands yeux et entra en hâte dans l'église. Mike entendait les fidèles prendre place.
« Nous penserons à ton ami Dwayne en disant la messe, et nous demanderons pour lui la miséricorde divine, »
dit doucement le père en tapotant une dernière fois l'épaule de son enfant de cœur.
« Tu es prêt ?»
Mike acquiesça. Il prit le haut crucifix posé contre le mur et suivit le prêtre qui se dirigeait d'un pas solennel vers l'autel. En fin d'après-midi, M. Stewart monta parler à son fils. Dale était allongé sur son lit et écoutait les cris des jeunes enfants qui jouaient dans la rue. Des bruits heureux et si loin.
« Comment te sens-tu, mon grand ?»«
Ça va. »«
Lawrence est en train de dîner. Tu es sûr que tu ne veux pas descendre ?»«
Non, merci. »
Son père s'éclaircit la gorge et s'assit sur le lit de Lawrence. Dale, couché sur le dos, les bras sur le front, regardait les petites fentes du plafond. Il dressa l'oreille lorsque son père s'assit, s'attendant presque à percevoir un frôlement sous le lit, mais il n'entendit que les bruits de l'extérieur qui entraient par la moustiquaire. La journée était grise et lourde d'humidité.
J'ai appelé la police toute la journée et j'ai fini par avoir quelqu'un.
Dale attendait la suite.
« C'est vrai, »
continua son père d'une voix rauque.
« Il y a eu un terrible accident avec la machine à récolter le maïs. Dwayne, Barney dit que ça s'est certainement passé très vite. Ton ami n'a pas souffert. »
Dale se raidit et se concentra sur les fentes du plafond.
« La police a passé la matinée à la ferme, »
reprit son père, devinant que malgré l'horreur des faits, Dale voulait savoir.
L'enquête suit son cours, mais ils sont certains que c'est un accident.
Et son père ?
Quoi ?
Le père de Dwayne ? Il a été arrêté ?
Monsieur Stewart se frotta le menton.
Qui t'a dit ça ?
Mike est passé. C'est un gars d'ici qui lui a raconté. Il paraît que M. McBride a été accusé de meurtre.
Son père secoua la tête.
La police l'a interrogé, c'est tout. Il a... Il a bu jusque tard dans la nuit, et ce matin, il ne savait plus ce qu'il avait fait. Mais selon le rapport de M. Digger et celui du coroner, Dale, tu veux vraiment que je t'explique ?
Oui.
La voix de Dale était ferme.
Eh bien, il y a certains indices qui permettent de déterminer depuis quand exactement quelqu'un est mort. Tout d'abord, ils ont cru que l'accident avait eu lieu ce matin, après que Martin McBride était rentré chez lui et s'était endormi.
Ivre mort.
Oui. Ils ont d'abord pensé que l'accident avait eu lieu ce matin, mais le coroner affirme que ça s'est passé cette nuit aux alentours de minuit. Martin McBride est resté à l'Arbre Noir bien après minuit. Il y a plusieurs témoins. Barney dit aussi que le père de Duane est effondré.
Dale acquiesça de nouveau. C'était bien vers minuit que la cloche avait sonné. Alors qu'il n'y avait aucune cloche de ce genre à Elm Haven.
Je veux y aller.
Son père se pencha vers lui. Dale respira son odeur de savon et de tabac.
À la ferme. Je ne crois pas que ce soit très indiqué aujourd'hui. J'appellerai plus tard pour avoir des nouvelles de Martin McBride et savoir s'il y aura des obsèques. Puis nous irons lui apporter à manger, peut-être demain.
« Je veux y aller !»
répéta Dale. Son père pensa qu'il parlait de l'enterrement, approuva de la tête, lui caressa le front et descendit. Dale resta sur son lit à réfléchir. Il dut s'endormir parce que quand il rouvrit les yeux, sa chambre était sombre. Les cris des enfants avaient fait place au bruit de la nuit et l'obscurité baignait les coins de la pièce. Il ne bougea pas, tendant l'oreille, attendant un frôlement venu de sous le lit de Lawrence, le tintement d'une cloche. La pluie s'abattit sur la ville. Un éclair illumina Depot Street et le clocher d'Old Central au-dessus des ormes. La brise passant à travers la moustiquaire était glacée. Dale frissonna, mais il ne se glissa pas entre les draps. Pas encore. Avant, il devait réfléchir. Le lendemain, Mike et Dale sortirent de chez eux tout de suite après les services religieux de leurs églises respectives. En partant, Dale dit à sa mère qu'il allait retrouver Mike dans son poulailler. Il n'eut pas à pousser le cri de ralliement. Mike l'attendait sous le gros orme, vêtu d'une cape imperméable fournie par le Peoria Journal Star pour distribuer les journaux partant de pluie.
« Tu vas être trempé », remarqua-t-il quand Dale arrêta sa bicyclette à côté de lui.
Dale haussa les épaules. Il n'avait même pas remarqué qu'il pleuvait à verse. La visière de sa casquette dégoulinait déjà.
« Allons-y !»
La pluie tambourinait sur les feuilles de maïs. Laissant derrière eux le château d'eau, ils suivirent Jubilee College Road, puis la 6. En haut de la colline sur laquelle se trouvait la maison d'oncle Henry, ils descendirent de vélo, dissimulèrent leurs engins dans les broussailles et escaladèrent la clôture du bois de M. Johnson. Il pleuvait encore plus fort et Mike ronchonna parce que les bicyclettes seraient mouillées.
« Allons, viens !»
murmura Dale. En haut de la colline voisine, le cimetière, avec sa grille de fer forgée noire, se profilait sur le ciel gris. Les bois ruisselaient d'eau et les tennis de Dale étaient déjà trempés. S'accrochant aux arbustes et aux buissons, ils montèrent la pente glissante et sortirent du bois dans un long pâturage limitrophe de la propriété des McBride au sud. Mike ouvrit la marche en se dirigeant vers l'ouest. La ferme était tout juste visible au-delà de presque 2 kilomètres de maïs ininterrompu. Le ciel gris était aussi bas qu'un plafond. Ils s'arrêtèrent à la clôture.
« On n'a pas le droit de faire ça !»
objecta Mike. Dale haussa les épaules.
« Je ne veux pas dire entrer sans permission, mais brouiller les indices sur le lieu d'un crime ou quelque chose comme ça. »«
Ils disent que c'est un accident !»
chuchota Dale, alors qu'il n'y avait pas un chat à 1 kilomètre à la ronde.
« Comment il peut y avoir lieu du crime s'il n'y a pas crime ?»«
Tu sais très bien ce que je veux dire. »
Mike rejeta son capuchon en arrière et examina le champ. Pas l'ombre d'une moissonneuse batteuse. Pas signe de quoi que ce soit. Vu de loin, la grange des McBride ressemblait à n'importe quelle autre grange.
Alors, on y va ou pas ?
On y va.
Mike remit son capuchon et ils escaladèrent la seconde clôture. Ils avançaient presque pliés en deux. La route se trouvait à plusieurs centaines de mètres, mais dans le maïs encore bas, ils avaient l'impression d'être très faciles à repérer. C'était comme de jouer aux soldats. L'un d'eux progressait de quelques mètres en courant, s'accroupissait dans le maïs et faisait signe à l'autre de le rejoindre. Ils avaient traversé plus de la moitié du champ quand ils tombèrent sur la saignée dans le maïs, une sorte de chemin biscornu tracé dans les cultures avec une pondeuse à gazon géante. Puis ils aperçurent le ruban de plastique jaune et parcoururent les 20 derniers mètres à quatre pattes.
« Mon Dieu !» chuchota Mike.
Sur le ruban jaune était imprimé en larges lettres noires « Police, passage interdit ». Le message se répétait indéfiniment tout autour d'un carré d'au moins 50 mètres de côté. À l'intérieur de l'aire ainsi délimitée, la saignée dans le maïs se terminait brusquement et il y avait un espace très piétiné. Dale s'arrêta un instant, puis franchit le ruban et s'approcha en hâte de l'endroit dévasté.
« Mon Dieu !» répéta Mike.
Dale ne savait pas trop ce qu'il s'était attendu à trouver. La moissonneuse-batteuse arrêtée dans le champ, une silhouette humaine dessinée à la craie comme dans les films à la télé, mais il n'y avait que du maïs écrasé. Toutefois, on distinguait bien l'endroit où la machine avait fait demi-tour, où les roues avaient creusé de profondes ornières dans la boue. Cela faisait penser au champ où tous les ans, au mois d'août, se tenait la foire des pionniers parce que le sol paraissait avoir été piétiné par des milliers de personnes. Il vit des cigarettes parmi les tiges cassées et mouillées, un emballage de tabac à pipe, des morceaux de papier, quelques bouts de plastique. Il était difficile de situer l'emplacement de la moissonneuse-batteuse, le lieu exact de l'accident.
« Viens ici !» appela Mike.
Dale s'approcha, toujours courbé, au cas où M. McBride ou quelqu'un d'autre à la ferme regarderait dans sa direction. Il voyait le pick-up dans l'allée, mais la grange et la maison cachaient en grande partie la vue.
« Quoi ?»
Mike montra du doigt le sol. Les maïs écrasés semblaient badigeonner d'une peinture brun-rouge. La pluie avait dilué un peu la couleur, mais sous les tiges, elle était encore très nette. Dale s'accroupit, toucha un plant de maïs brisé, regarda ses doigts. Il eut le temps de voir une faible trace rouge avant que la pluie ne le lave.
Est-ce que c'est le sang de Dwayne?
Il n'eut pas la force de s'attarder sur cette pensée. Il se leva et commença à suivre le cercle de maïs détruit, découvrant partout des dégâts. Il avait entendu son père raconter à sa mère que, d'après Barney, les pompiers avaient tellement piétiné l'endroit que la police d'Oak Hill avait été incapable de reconstituer ce qui s'était passé.
« Qu'est-ce qu'on cherche, au fait ?» demanda Mike à voix basse. « Il reste que des débris. »« Continuons. On le saura quand on le trouvera, » répondit Dale.
Il sortit du périmètre délimité par la police et, toujours courbé, commença à explorer les rangées de maïs intactes. Il découvrit le trou au bout de 5 minutes, à moins de 10 mètres de l'endroit dévasté. Ce n'était pas facile à voir sous les feuilles de maïs, mais il se tordit le pied dans quelque chose et se baissa pour regarder ce que c'était. Il fit signe à Mike qui arriva en courant, et tous deux s'agenouillèrent dans la boue.
« Regarde !» chuchota Dale.
Il le mesura à l'aide de ses deux mains, pas tout à fait 30 cm de diamètre, mais tout autour, la terre semblait tassée et bizarre. Il enfonça la main dans le trou, mais Mike l'attrapa aussitôt et la tira en arrière.
« Non !»« Pourquoi pas? Je voulais juste voir si c'était plus large à l'intérieur. »« Ouais, c'est plus large. Touche !»
Mike secoua la tête.
« Les parois sont bizarres aussi, on dirait qu'elles sont vernies. Et regarde les rainures tout autour. »
Il leva la tête. Rien ne bougeait du côté de la ferme, pourtant il avait la nette impression d'être épié.
« Essayons de voir s'il y en a d'autres. »
Ils en trouvèrent 6. Le plus gros mesurait 50 cm de diamètre. Le plus petit était à peine plus grand qu'un trou de taupe. Il ne paraissait pas disposé de façon ordonnée, mais la plupart se trouvaient assez près de la ferme de chaque côté de la saignée. Dale voulait se glisser jusqu'à la grange pour voir si la machine s'y trouvait.
« Pourquoi donc? Pourquoi tu veux faire ça ?»
demanda Mike en lui saisissant l'épaule pour l'obliger à se courber davantage.
Ils étaient trop près. Ils pouvaient lire les numéros sur les étiquettes agrafées aux oreilles des vaches derrière la grange. « Je veux, c'est tout. Il le faut, » souffla Dale.
Une porte claqua et les deux garçons se jetèrent à plat ventre dans la boue. Allongés entre deux rangées de maïs, Dale entendit un moteur démarrer et s'aperçut qu'il ne pleuvait presque plus. Il y avait encore un fin brouillard, mais l'averse avait cessé.
Il a descendu l'allée. Mais je pense qu'il y a encore quelqu'un.
Retournons dans les bois, murmura Mike. Juste un coup d'œil à la grange.
Dale fit un mouvement pour se lever, mais Mike le retint.
J'ai déjà vu ça.
Ça quoi?
Ces trous. Ces tunnels.
Où ça?
Mike se détourna et commença à marcher, plié en deux, en direction du bois.
Viens avec moi et je te le dirai.
Toujours baissé, il s'éloigna entre deux rangs de maïs. Dale hésita. Il était à moins de 30 mètres de la grange. Le sentiment d'être observé était toujours aussi fort, mais son désir de voir la machine aussi. Ce n'était pas de la curiosité morbide. L'idée de voir les lames et les rouages qui avaient tué son copain lui soulevait le cœur. Mais il fallait absolument qu'il sache, qu'il essaie de comprendre. La pluie avait recommencé. Dale jeta un coup d'œil derrière lui, aperçut la pointe du capuchon de Mike au-dessus des maïs et le suivit. Ce n'était que partie remise.